Déclic, champion cycliste avec Romain Bardet et Philippe Brunel. Depuis mon enfance, j'ai une passion pour le vélo. Et j'en fais l'été, dans le midi, avec les images du Tour plein la tête. Je souffre énormément sur les petits cols de Provence. Je me mets en danseuse, même si l'expression convient mal pour ma lourde carcasse. Et je suis chaque année davantage à la peine. De là, sans doute, mon admiration sans borne pour les champions cyclistes. Comment font-ils ? C'est donc une chance pour moi et un privilège d'accueillir dans Réplique Romain Bardet avec le journaliste Philippe Brunel qui sait mieux que personne raconter l'épopée des grandes courses et qui a publié récemment « Rouler plus vite que la mort ». Je vous demanderai d'abord, Romain Bardet, ce qui vous a conduit à faire votre métier du plus difficile, du plus exigeant, du plus douloureux des sports. Romain Bardet.
Oui, le cyclisme, c'est une grande histoire d'amour, comme vous l'avez très bien énoncé en introduction de l'émission. Je pense qu'on décide de faire du cyclisme par amour, parce que ça nous rappelle quelque chose de notre enfance, ça fait appel à notre intime, et moi, c'est en étant plongé dans cette culture, dans ce milieu-là, dans les courses de province, dans le milieu rural de mes jeunes années, que j'ai développé cette sensibilité pour les odeurs particulières, les bruits des roues de vélo, de cette odeur du camphre, des jambes de coureurs, de ce certain esthétisme qui se dégage de la pratique cycliste, qui ont fait germer en moi cet amour pour après la quête de liberté qu'a représenté la vraie pratique du vélo.
Et vous dites d'ailleurs qu'au départ, dans votre vie, c'est l'amour de la nature qui vous a déterminé. Vous dites aussi que c'était un terrain de jeu illimité, à la différence du football. C'est dans un rectangle.
Oui, très vite. Romain Bardet. Le vélo de mon enfance, c'est le vélo du mercredi après-midi. C'est l'échappatoire de l'école. Pourtant, j'étais un élève assez studieux, assez assidu. Mais c'était l'échappatoire le mercredi de pouvoir parcourir la campagne et au fur et à mesure que je grandissais, que je changeais de taille de vélo, que je passais sur des roues un peu plus grandes, et bien finalement la campagne s'ouvrait à moi et les imaginaires de courses cyclistes se développaient aussi. Et ce qui me permettait de non seulement d'avoir mon compte, parce que j'étais quand même assez hyperactif dans mon enfance, mais de trouver aussi une quête, un terrain d'expression pour cette envie de découvrir, d'être au contact de la nature et à la fois d'essayer d'imiter les champions cyclistes.
Et alors, maintenant je me tourne vers vous, Philippe Brunel. Vous n'êtes pas un champion cycliste, vous êtes journaliste à l'Équipe, oui, je crois. Oui. Et vous avez choisi, vous, le vélo aussi, comme spécialité. Après tout, oui, vous auriez pu choisir d'autres. Donc vous avez, à votre manière, une même passion pour le vélo. D'où vient-elle ? Vous faisiez du vélo dans votre enfance,
oui,
aussi ?
Oui, j'en ai fait. Oui, j'ai même fait de la compétition en amateur. Ah oui ? Oui, oui, mais bon, de façon très modeste. Je ne peux pas raconter ça devant Romain Bardet. Vous me mettez en difficulté. Non, disons, c'est quelque chose d'un peu irrationnel. Pourquoi on aime... Par quoi on est gouverné? Pourquoi j'aime le vélo? Je pensais plutôt le cyclisme. Moi, je dis toujours cyclisme, mais pas vélo. Mais
oui,
je pense qu'il y a un rayonnement supérieur dans le mot cyclisme qui convient mieux au sport en question.
Oui, c'est vrai. En même temps, le mot vélo fait un lien entre l'enfance émerveillée et le sport cycliste de haut niveau. Si
oui. Alors, c'est parce que moi,
c'est mieux vélo que bicyclette, quand même.
Ben je sais pas. Vélo pour moi c'est le facteur de Jacques Tati. Enfin c'est l'instrument quotidien des campagnes, des villes. C'est l'élément avec lequel on se transporte. Le cycliste c'est autre chose qui s'imprègne d'une certaine religiosité. D'ailleurs Quand vous me demandez pourquoi j'ai choisi le vélo, j'en sais trop rien, c'est plutôt le vélo qui m'aurait choisi. C'est-à-dire, quand j'étais jeune, je suis d'extraction, on va dire, modeste, même, on peut dire même prolétaire. Et c'était le sport des prolétaires, dont je vous parle des années 60. Et donc, moi, d'ailleurs, j'ai toujours vu ça comme le sport du populo, des prolétaires. D'ailleurs, même quand je lisais on peut lire Janco à l'époque, sur Paris Match, quand il parlait du supporter, il disait, ces gens aux mains grasses qui mangent du saucisson sur le bord de la route. Lui-même remettait le cyclisme dans une espèce de caste sociale. Ça m'allait bien, j'étais cette extraction-là. Dans les rues de Paris, il y avait le miroir du cycliste qui était affiché dans les kiosques, parce qu'après la guerre, les kiosques ont été la possession de l'humanité, et le miroir du cycliste qui était un élément important. Pourtant, dans mon amour pour le cyclisme, était encarté, présenté devant tous les kiosques. Et donc, tout jeune, je voyais les visages détourés de Jacques Anquetil, de Rick Van Looy. Et j'ai déjà une première passion, un peu, on va dire, presque un peu esthétique, des gens qui ne ressemblaient pas à mon père, à ce que je connaissais. J'ai commencé à lire très, très jeune, ça, c'est le miroir du cyclisme. J'ai compris que le cyclisme, j'ai aimé le cyclisme à travers l'écrit. Pas simplement, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tellement de télévision. Il y avait les premiers directs qui sont venus en 68. Mais c'était un sport qui plutôt nous attirait l'imaginaire. Parce que d'abord, la course n'est pas lisible, on ne la voit pas. Et donc, le récit m'intéressait. C'est-à-dire, j'ai compris qu'il y avait une course, il y avait le récit de la course. Enfin, ça se démultipliait avec des tas d'hypothèses sur c'est les coureurs eux-mêmes qui racontaient leur course à l'arrivée avec tout ce que... Un coureur, c'est un menteur aussi. Enfin, il essaye de s'attribuer le beau rôle. Enfin, je comprenais tout ça confusément. Et puis, il y a eu ce truc mystique chez moi, c'est que j'ai vu Jacques Anquetil terminer son tour en 64 au Parc des Princes quand il bat Poulidor. Il rentre donc en maillot jaune sur le Parc des Princes et je le vois tourner. Et en fait, c'est pas possible cette image, parce qu'on n'avait pas de télévision. Ça veut dire donc que je l'ai inventé, il y a une mystique chez moi, sur le personnage Anquetil, sur son style à vélo. Et après, c'est un collage, c'est l'image d'Anquetil, les images de télévision, l'écrit, c'est tout ça.
Et alors, les retransmissions en direct des étapes intégrales auraient pu vous mettre au chômage, puisque maintenant, on voit tout. Et en même temps, vous continuez d'écrire. Il y a place, oui. Il y a place pour le récit tel que vous le faites.
Oui, parce que les faits ne disent rien. Enfin, on voit tout et on sait rien à la fois.
Oui, c'est vrai.
On voit tout, mais on sait rien des intentions du coureur, de son intériorité, de ce qui se passe en lui. Et ça, la presse écrite est un formidable relais de la télévision. Je pense que ça se contredit pas. C'est quelque chose qui, ça s'oppose pas d'ailleurs. C'est quelque chose qui va ensemble, quoi. Enfin, l'écrit supporte l'image et l'image supporte l'écrit. Et en même temps, la télévision ne montre pas tout. De la course. Elle montre quelques points là où la caméra se cristallise ou se focalise, mais on ne sait pas ce qui se passe derrière. Enfin, il se passe des tas de choses. Il y a 200 coureurs, il y a 200 événements.
Oui, alors, justement, tout le monde se passionne pour les grands tours, et notamment pour le Tour de France. Vous avez terminé une fois deuxième, une fois troisième, Romain Bardet, et les étapes sont, comme je le disais, intégralement diffusées. Est-ce que cette nouvelle réalité change quelque chose à la course ? Parce qu'on voit par exemple de longues échappées, les coureurs sont destinés à être rattrapés par le peloton et on se dit c'est une manière de faire voir le maillot, et le maillot c'est plus un maillot d'équipe nationale, c'est des équipes de marque. Alors est-ce que tout cela joue ? Les courses sont-elles modifiées par justement cette présence de la télévision ?
Oui, c'est vrai. On a vraiment, on ressent une totale transparence et à la fois il y a une certaine, comme le disait très bien Philippe Brunel, une certaine théâtralité dans le cyclisme dont toutes les parties s'accommodent très bien puisque on se plaît un petit peu à décrier finalement le côté presque inhumain de faire une course de 3 semaines, parcourir plus de 3500 km à travers toute la France. L'effort paraît surhumain. Et à la fois, on se plaît aussi à critiquer des étapes de plaine languissantes ou des sujets publicitaires qui, vu de l'intérieur, sont des moments de répit pour nous, puisque il serait illusoire de croire possible de courir toutes les étapes du kilomètre zéro à l'arrivée à 100% de nos moyens. Donc il y a des étapes de transition qui sont languissantes, mais je pense que les Français aussi se plaisent, dans les échos que j'ai, à faire la sieste aussi devant le Tour de France. C'est parti de juillet. Alors,
oui. Et à regarder les paysages.
Et à regarder les paysages, en profiter pour admirer notre magnifique patrimoine qui est mis en valeur par ce que la course cycliste traverse, la diversité de ce qu'on peut trouver tout au long de la route. Donc il y a un véritable amour, notamment du Tour de France, qui rappelle à chaque Français, je pense aussi, des souvenirs d'enfance et des lieux familiers.
Oui, alors justement, vous avez utilisé le mot inhumain, ou surhumain. Surhumain, c'est vrai, c'est la raison profonde de mon admiration pour le vélo. Je conçois que c'est un sport qui réclame des qualités inouïes, et ça me fait penser à toute la période du dopage, puisque on s'est dit, le soupçon est né de voir des coureurs avaler les étapes de montagne, rouler trop vite. Armstrong, lors de l'étape, vous en parlez dans votre dernier livre, Philippe Brunel, une étape de Sestrière, je crois, et Luzardiden, etc. Il allait vraiment trop vite, que se passe-t-il? Et on s'est rendu compte, en effet, que pendant toute une période, les coureurs étaient dopés, ils prenaient à peu près tous de l'EPO, ce qui semble vouloir dire que c'est quand même le meilleur qui gagnait, puisqu'ils étaient tous dopés à égalité, ou peut-être pas. Mais alors justement, cette période est-elle terminée, Romain Bardet? Comment vivez-vous cette suspicion aujourd'hui attachée à votre sport, Romain Bardet?
Très clairement, j'ai grandi avec, et j'ai, entre guillemets, à très humble échelle, et essuyé les pots cassés de ça, sans en faire du tout un mélodrame. C'était très marginal de faire du vélo dans les années 2000 pour un collégien lambda comme je l'étais. Le fait de ce sport fut éclaboussé sans cesse par des affaires de dopage. Il y a une vraie crédibilité à retrouver, et c'est un long combat qui sera jamais terminé, puisqu'à chaque nouvelle affaire, comme malheureusement il peut y en avoir dans tous les sports de haut niveau, et le cyclisme ne sera jamais à beau être à la pointe de la lutte antidopage, on n'est jamais à l'abri d'avoir de nouveaux problèmes à l'image de la société. On ne peut pas clamer que dans le vélo on ne pourra pas être éclaboussé par de nouveaux scandales, même si ça ne sera jamais, à mon sens, d'ampleur de ce qu'on a pu connaître dans les années 90 ou au début des années 2000. Maintenant, c'est vrai que ça, par rapport au grand public, ça a biaisé la magie de ce sport, et ça a été très douloureux pour la génération qui a été lésée, parce que je pense vraiment que durant ces, Philippe Brunel pourra certainement le certifier également, des champions des années 90 propres, il y en a eu, ils n'ont pas eu le palmarès qu'ils auraient dû avoir, mais il y en a eu des gens qui n'ont jamais dévié de leur ligne de conduite et qui ont une carrière honorable sans gagner de grandes courses. Et maintenant, je me peux plaire à dire que je cours dans un peloton ou dans un sport de très haut niveau, l'un des plus propres que la planète puisse connaître. Donc c'est une vraie victoire.
Et Philippe Brunel, oui, vous avez connu ces années. D'ailleurs, votre dernier livre vous avez écrit sur Pantani. Oui. Votre dernier livre est consacré à Armstrong. Et vous êtes d'ailleurs extrêmement sévère, puisque le soupçon dans ce livre monte d'un cran. Armstrong admet s'être dopé, il l'admet tardivement dans une émission devenue célèbre avec Oprah Winfrey. Il était cerné, les autres coureurs de l'US Postal avaient craché le morceau, il ne pouvait plus rien faire, donc il l'a concédé, mais il a dit, à l'époque tout le monde le faisait, et donc je n'étais pas différent des autres. Mais ce qu'il n'a pas dit, et ce que vous soupçonnez, c'est qu'il aurait utilisé un moteur électrique. Donc c'est l'époque du dopage et l'époque où aurait pu être introduit, a peut-être été introduit dans les courses cyclistes, le moteur électrique.
Oui, enfin c'est pas moi qui ai introduit le soupçon. Le soupçon s'est introduit par lui-même. On peut appeler ça aussi dopage électrique. Il y a eu, on peut dire des faits qui sont avérés. On a vu Cancellara rouler à un rythme, on va dire...
C'est dans le Tour des Flandres, non?
Dans le Tour des Flandres, Gramont, ouais. Inhabituel dans le mur de Gramont. Mur de Gramont. Dans Paris-Roubaix, un coureur canadien qui a d'ailleurs gagné le Tour d'Italie sans qu'on puisse s'expliquer comment, Ejedal a été victime d'un incident étrange sur la route du Tour d'Espagne, où son vélo s'est cabré sur la route après une chute. Enfin bref, il y a eu plein d'éléments. Il y a eu une jeune cyclocross woman belge qui a été... pris avec un vélo électrique. Je veux d'ailleurs pas penser que ce soit elle qui ait pu penser tricher, aller chercher un vélo. Elle s'est pas équipée elle seule. C'est très sophistiqué, donc il faut tout un entourage. Bon, je sais pas si l'UCI a vraiment cherché dans ce sens. C'est-à-dire à partir du moment où la lutte contre le dopage s'est resserré, le dopage s'est déplacé, décalé, est devenu peut-être un dopage technologique qui va d'ailleurs avec la société d'aujourd'hui. La seule chose que je trouve, l'ambiguïté qui demeure, c'est-à-dire l'ambiguïté, c'est que à chaque fois qu'il y a eu un scandale de dopage ou la découverte d'un fait de dopage, prenons Armstrong, c'est une enquête fédérale américaine. Prenons l'éviction de Ivan Basso et Yann Ulrich du Tour de France 2006. C'est après l'opération Puerto qui est une opération de la Guardia Civile espagnole, comme l'affaire Festina était simplement consécutive à l'intervention d'un douanier au poste frontière belge. Tout ça pour dire que c'est jamais l'UCI qui a fait
l'Union cycliste internationale.
Voilà, l'Union cycliste qui normalement devrait gérer tout ça n'a jamais fait sa propre police à l'intérieur. C'est pour ça que demeure toujours une équivoque, une ambiguïté. Il faut donc une intervention extérieure pour que ce milieu fasse sa propre police. Et bon, voilà, il y a la suspicion, je pense, s'enracine dans cette chose-là.
Oui, mais vous êtes, dans votre livre, Philippe Brunel, très sévère avec Armstrong, qui n'était, Dieu sait, pas un personnage sympathique, ça, tous les témoignages concordent. Mais moi, j'ai toujours eu le sentiment, peut-être naïf, que c'était malgré tout un grand champion. Et d'ailleurs, il a couru des triathlons, une fois retraité, et il continuait à les gagner, c'est-à-dire dans ce pays où il y a de très grands athlètes, les États-Unis, à 40 ans, il faisait des triathlons, il les gagnait. Alors avait-il un moteur électrique dans ces petites compétitions de triathlon? Je n'en sais rien. Mais ne peut-on pas dire malgré tout que c'était un athlète hors norme? Et on a l'impression que vous allez jusqu'à lui contester cette qualité dans votre dernier livre.
Non, je crois pas. Ce qui m'a déplu chez Armstrong, c'est pas tellement sa qualité d'athlète. Je la reconnais. Il a été champion du monde très jeune. Je la reconnais. Je n'ai pas aimé son cynisme. Je veux dire, ça dépend de l'idée qu'on se fait du champion. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on plaque là-dedans? Qu'est-ce qu'on va chercher dans l'idée qu'on fait du champion? Et dans l'idée, je me fais du champion, Armstrong, ça va pas.
Ça
cadre pas, non.
Oui, je comprends très bien. Mais alors, justement, Romain Bardet, vous dites que le cyclisme a changé. Il y aura peut-être toujours des problèmes, peut-être éventuellement des scandales, mais on est sorti de ces années 90-2000. Et la question que je me pose, c'est, elle porte sur la manière dont on est sorti. C'est-à-dire, j'ai le sentiment que contre le dopage scientifique, c'est un dopage scientifique, on est obligé aussi de recourir à la science, c'est-à-dire à la méthode. Je vois quand même, justement, j'ai les souvenirs de ces athlètes qui étaient Eddy Merckx, et puis avant Anquetil, Poulidor, etc. J'ai le sentiment que les choses ont changé du fait d'une sorte d'omnipotence de la méthode. Le monde de la vie doit être presque remplacé par le monde de la précision, et on assiste à une rationalisation intégrale du métier de coureur. Et d'ailleurs, vous-même, vous en témoignez. Cette rationalisation, vous êtes absolument partie prenante, parce que vous vous intéressez à tous les petits détails de l'entraînement, et aussi, vous en souffrez un peu, Romain Bardet.
Oui, votre diagnostic est très très juste, et je ne saurais le contredire, du fait que malheureusement, ou heureusement, c'est ce qui fait la beauté dans un univers qui, le cyclisme, comme dans tous les créneaux un petit peu de haut niveau, est devenu de plus en plus concurrentiel à son échelle. Et là où il y a 30 ou 40 ans, la classe parlait d'elle-même et finalement explosait au plus grand jour, finalement sans obstacle. Le fait que maintenant le sport cycliste soit pratiqué on a des coureurs de plus de peut-être 30 nationalités sur le Tour de France, où on a des systèmes de détection en place pour avoir les meilleurs champions, les meilleurs athlètes dans chaque continent, fait que les niveaux se sont resserrés, et le sport s'étant considérablement assaini, les détails se font davantage maintenant, les différences, pardon, se font davantage sur les détails, et ce qui a pu faire perdre un certain, parfois, romantisme à certaines courses cyclistes, comme le Tour de France, où on avait semblé qu'il était sous contrôle un petit peu justement de tenants scientifiques où tout était devenu très rationalisé pour parce que les potentiels physiques de chacun maintenant sont assez bien connus et les différences entre athlètes étant moins éclatantes qu'au temps des grands champions qu'on a pu connaître comme Anquetil, Poulidor, Hinault, Fignon et depuis les différences étaient maintenant sont moins criantes entre les athlètes. Et il y a une volonté, un petit peu à l'image de la société en général, de rationaliser les performances de chacun. Donc, c'est vrai qu'on s'est retrouvé face à un problème où si on voulait vraiment être au niveau, il fallait aussi prendre en compte chacun des facteurs de la performance pour isoler un petit peu les isoler, essayer de tirer finalement le meilleur de chaque potentiel. Néanmoins, on retrouve sur certaines courses du Grand Raid, certains événements, toute la splendeur et tout le romantisme qui fait du cyclisme un sport aussi adoré qu'il ne l'est, aussi passionnant parfois à suivre, à travers son imprévisibilité, ses scénarios de course qui peuvent être parfois voilà, relevés un petit peu de l'extraordinaire, et surtout rendre aux champions cyclistes leur terrain d'expression, la route, bien loin des calculs qui ont parfois aseptisé un peu les cours cyclistes ces dernières années.
Oui, mais vous êtes obligé de calculer vous-même. C'est-à-dire, toute votre année, tout est préparé avec la plus extrême minutie. Hein.
Oui.
Tout est réglé dans les moindres détails. Votre entraînement, le matériel, il n'y a, semble-t-il, plus beaucoup de place pour la fantaisie, en tout cas pour la paresse, ça c'est sûr.
Alors pour la paresse, je vous rejoins tout à fait. Pour la fantaisie, j'aime bien prendre un petit peu la métaphore de se dire finalement tout doit être calibré, un petit peu millimétré à l'entraînement dans la préparation. Mais pour moi, l'espace d'expression, il doit se situer en course où finalement de réussir à mettre tous les ingrédients le jour J pour justement ne suivre aucun plan et laisser voilà, comme un grand soliste qui a répété pendant des heures sa partition, bah le jour du concert qui arriverait à se lâcher dans une improvisation digne des plus grands ferait un véritable chef-d'œuvre. Et c'est ce vers quoi j'ai toujours aspiré. Maintenant, en compétition, des fois, les stratégies de certaines équipes nous amènent à tempérer un peu ces velléités-là et à s'adapter à un cyclisme qui était parfois un peu plus cadenassé, et j'ai souvent été le premier à le regretter.
Et Philippe Brunel, est-ce que vous voyez cette omnipotence de la méthode aussi dans le cyclisme contemporain? Est-ce que les choses ont changé depuis le moment, je crois, c'est 1977, où vous êtes devenu vous-même journaliste sportif?
Oh oui, ça a changé considérablement, oui.
En quel sens?
En quel sens? C'est que le champion était d'abord une personnalité. Un homme singulier, si vous les prenez d'ailleurs, vous pouvez regarder. Si vous prenez par exemple Coppi ou Anquetil, parlons de ces deux-là, Coppi divorce dans l'Italie puritaine, Anquetil vole ou kidnappe la femme de son médecin, se marie avec, s'affiche en public avec elle, c'est-à-dire deux champions cyclistes qui en même temps sont des hommes dans une période un peu existentialiste d'existence qui vivent leur vie. Ils s'occupent pas... personne ne peut leur dicter leur comportement. Et ce que je regrette aujourd'hui, c'est que les champions se comportent comme si on leur dictait leur comportement à travers la technologie, bien sûr. Alors après, ils sont à l'écoute ou pas. Nous avons Romain Bardet là avec nous, c'est une grande chance. Les deux fois où il a été lui-même extrêmement lumineux, c'est dans la descente de la côte de Domancy dans le Tour de France 2016, où là, il s'occupe pas des directives de son équipe, il arrache l'oreillette. Et il s'en va, c'est-à-dire il laisse son instinct s'exprimer, sa fantaisie, appelons ça comme on veut, enfin il appellera ça comme il veut, et au championnat du monde à Innsbruck, où là il est lui-même puisqu'il n'y a pas d'oreillette. Et donc il court selon son instinct en considérant ses équipiers de l'équipe de France et il réalise une course sublime. Il s'en faut très peu qu'il soit champion du monde.
Qui donc, était le champion d'ailleurs?
Valverde, l'Espagnol.
Valverde, oui.
Voilà. Et donc il est lui-même un exemple de ça. Enfin, je sais pas, il faudrait peut-être
interroger. Ouais, Philippe, pour un prisonnier.
Voilà, donc c'est ça, le champion cycliste. Longtemps, ça a été une personnalité. Rappelez-vous Hinault qui signalait parce qu'il avait donné un coup de poing à des ouvriers sidérurgistes de la Seine-sur-Mer parce qu'il lui empêchait de rouler, des grévistes, Anquetil qui va dire « je me dope parce que tout le monde se dope » au début des contrôles en 1966, c'est-à-dire qu'il y a cette honnêteté-là de débattre de son métier, de son sport. Bon, ben, tout ça un peu a disparu, c'est devenu un peu plus formaté, à l'image peut-être de la société d'aujourd'hui.
Vous êtes d'accord avec cette analyse ? C'est les moments où vous êtes libéré d'un certain nombre de contraintes qui ont été les plus beaux moments de votre carrière, Romain Bardet ?
Oui, je suis d'accord. Et puis il y a une forme aussi, certaines formes d'exubérance qui tend à disparaître dans une société que je crois savoir aussi, vous, Monsieur Finkielkraut, vous déplorez cette société pas du paraître, mais avec maintenant la société de l'instantanéité des réseaux sociaux, où finalement où chaque comportement, chaque minute est sujet à interprétation, à caution, et ce qui amène les gens à une certaine forme de retenue et finalement parfois moins, il y a peut-être moins d'identification dans les champions cyclistes parce que il y a plus cette spontanéité, cette liberté. J'ai pas l'image d'un champion contemporain qui aurait non seulement ni la prestance de ce qu'on me raconte de l'époque des Anquetil et même des Fignon, voilà, qui sont pour moi des figures presque tutélaires de notre sport. C'est-à-dire que maintenant, dans une société où tout est beaucoup plus sous contrôle et je me demande quelle image véritablement on renvoie de ce qu'est la vie d'un cycliste. Peut-être on s'affranchit moins des codes comme ont pu le faire certains grands champions.
Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le contrôle du directeur d'équipe ? Ne peut-on pas dire que l'oreillette aussi a beaucoup changé les choses ? Les coureurs cyclistes ne seraient-ils pas plus libres si les courses se déroulaient sans oreillette ?
Bien sûr, je suis le premier à vouloir à retirer les oreillettes parce que je trouve que c'est pas un instrument de, j'irais pas jusqu'à dire un instrument de servitude, mais je pense que le coureur cycliste est suffisamment intelligent, pas forcément dans sa vision, dans le sens primaire du mot, mais possède une intelligence de course qui doit lui permettre de le responsabiliser et de prendre les décisions en son âme et conscience sans qu'il ait, entre guillemets, des artefacts et ou des murmures à l'oreille qui lui dicteraient un comportement. Je pense que nul n'est mieux à même d'apprécier une situation que le coureur lui-même qui la vit.
Mais êtes-vous nombreux dans le peloton à penser ainsi ? Peut-on espérer une révolte des coureurs contre l'oreillette ou bien est-il trop tard ?
Je crois que peu de coureurs se réjouissent de l'oreillette, hormis sur le volet sécuritaire, c'est-à-dire que on ne peut pas omettre le fait que sur des points de dangerosité des parcours, le fait d'avoir l'oreillette nous permet de nous avertir en temps et en heure de rétrécissement de route, de choses comme ça. Mais à la fois la tension que ça engendre dans le peloton et la certaine et puis c'est l'expression même d'un lien finalement de subsidiarité entre le coureur et son directeur sportif, où le supérieur hiérarchique peut faire passer des ordres à l'instant T en direct. On en est là. C'est la vraie question. Et je pense que ça enlève une partie de l'âme, une partie de l'esprit d'initiative, surtout du coureur cycliste, c'est sûr.
Vous êtes d'accord avec ça,
Philippe ? Oui, moi je suis contre les oreillettes. Enfin, on en revient au titre de votre émission, champion cycliste. C'est quoi un champion ? Qu'est-ce qui avant les oreillettes, il y a plusieurs définitions du champion cycliste, mais c'était pour les anciens, je vous parle de l'époque Eddy Merckx, le champion c'est celui qui était capable de rétablir seul sur la route une situation compromise, seul par ses propres moyens, par son intelligence de course, par sa capacité à interpréter les reliefs, les adversaires. Bon, tout ça est supprimé. Les coureurs sont un peu ventriloqués aujourd'hui par des directeurs sportifs qui, sur le fond, sont pas... qu'est-ce qu'ils ont démontré ? Je me souviens d'une... J'en reviens à Marco Pantani, qui était une sorte de d'Anquetil dans son genre. C'est-à-dire il a débattu de son sport, même si après, on peut lui trouver aussi, bien sûr, des travers. Et il a aussi une image qui peut être controversée, je la comprends bien, mais lui-même, quand il y a eu les oreillettes, il était dirigé par deux personnages qui ont été d'anciens coureurs. Il y en a un qui s'appelle Martinelli et l'autre s'appelle Cassani. Et Martinelli et Cassani se plaignaient que Pantani n'ait pas envie de les écouter. Et Pantani m'a dit un jour, pourquoi je devrais écouter Cassani et Martinelli ? Regarde ce qu'ils ont fait comme carrière, à tout prendre, je préfère encore être Pantani. Et pour moi, ça résume très très bien, c'est-à-dire si vous êtes en parfaite osmose ou empathie avec votre directeur sportif, c'est-à-dire une totale confiance, c'est, pourquoi pas, c'est très bien, il peut avoir une vision, une lucidité que vous n'avez pas sur le moment dans l'effort, mais ça doit être quelque chose d'assez restreint, puis dans un rapport de confiance, mais pas dans un rapport pas sous la dictée, c'est-à-dire sur le fond, même si un coureur se met à désobéir, et si le coureur a raison, il va quand même porter la culpabilité de la désobéissance, et ça complique les relations dans une équipe, parce que le sport cycliste, ils vivent tous ensemble, le soir ils sont ensemble autour de la table, à chaque fois c'est une fresque humaine, le cyclisme. Ce qui est beau dans le cyclisme, dopé ou pas dopé, c'est que c'est quand même c'est un sport qui est porteur de grands facteurs humains. Donc, il y a tout ça en arrière-plan. C'est difficile à expliquer comme ça, rapidement.
Non, mais je comprends. Alors, dans votre dernier livre, vous dites aussi que Pantani surnommait Armstrong Spider-Man, et également le fils de celui qui est allé sur la Lune.
Oui.
Ce qui est assez...
Vous m'avez pas reproché, mais vous m'avez dit que j'étais sévère avec Armstrong. Mais lui, il avait l'intuition. Comme un coureur, un grand coureur, a souvent le pressentiment de sa propre légende. Et je pense que Romain, enfin j'espère, j'aimerais demander lui peut-être s'il a l'intuition que cette année, avec les Jeux Olympiques de Tokyo et le championnat du monde en Italie, il a le pressentiment que sa propre légende est en cours.
Ah, alors Romain Bardet.
Oui, merci Philippe. Alors, petite précision sémantique, hein, j'apprécie beaucoup l'émission, mais je ne me considère pas comme un champion cycliste, hein, simplement un champion de ceux qui marquent leur époque par des exploits, et j'essaie simplement humblement de convertir ma passion en le faisant le mieux possible sur la scène internationale, et j'ai besoin de cette compétition et de ce challenge permanent comme une quête d'idéal de vie pour m'épanouir aussi.
Oui, enfin, écoutez, quelqu'un qui fait troisième et deuxième du Tour de France, à l'époque Sky Ineos, qui ressemble quand même un peu à l'époque US Postal, pour moi, c'est un champion. Et d'ailleurs, je dois dire, là je me tourne vers Philippe Prunel, je n'oublie pas la question que je vous ai posée, mais vous dites, les champions d'aujourd'hui sont plus formatés. Mais moi, je vois ce qui se passe en France, avec trois champions, je réutilise le terme, qui suscitent une très grande adhésion. Alors peut-être n'ont-ils pas, font-ils pas les foucades de Photocopie ou de Jacques Anquetil, mais enfin, Bardet, Pinot, Alaphilippe, on s'identifie à eux, ils sont très différents les uns des autres, ils ne courent pas de la même façon, je ne sais pas jusqu'à quel point ils s'entendent, mais en tout cas, voilà, ce sont trois pôles d'identification tout à fait réels.
Oui, oui.
Et en qui d'ailleurs, on a une grande confiance.
Oui, oui, mais je suis d'accord.
Je suis d'accord avec vous,
mais c'est trois fers de lance de la nouvelle génération, c'est-à-dire qui arrivent après ces années dont on a parlé, les années 90 et 2000, qui ont été des années terrifiantes pour le cyclisme, avec beaucoup de scandales sur le dopage. Et ces trois coureurs-là que vous venez de citer, dont Romain, réinstallent un certain panache à la française.
Oui, un panache.
Voilà, il ramène cette idée-là qu'on a connue avant avec Hinault, il réinstalle finalement, il redonne du cyclisme une idée positive. Eux trois, chacun à sa façon, chacun à sa manière. Et je pense qu'il faut leur rendre grâce. D'ailleurs, si moi, comme journaliste, s'ils n'étaient pas là, j'aurais sans doute sombré dans une mélancolie noire. Enfin, au moins, ils m'ont sauvé de ça.
Souvenez-vous, Philippe Brunel, on reprochait déjà à Anquetil de manquer de panache. Antoine Blondin avait forgé à son propos une expression assassine. Il parlait de gérant de la route.
Ouais.
Et c'était un peu un gérant de la route. D'ailleurs, c'était un mal-aimé. Moi, je l'aimais, enfant, parce qu'il était mal-aimé. Je disais, c'est pas possible, c'est un champion quand même. Je me réjouissais même. Il y a un championnat du monde où il avait terminé seulement 9e, mais pour laisser, je crois, gagner Darrigade. Il avait réglé le sprint du peloton, oui. Mais il avait fait en sorte que Darrigade l'emporte. Donc, il était capable aussi de certains élans de générosité. Donc, la question du panache se pose depuis très longtemps, quand même.
Mais en vérité, c'est une injustice propos d'Anquetil, parce que Anquetil a été une sorte de économe,
oui, économe, voilà.
dans le Tour de France, parce que lui, il pensait que s'il pouvait gagner le Tour de France avec une seconde, pourquoi le gagner avec plus. D'ailleurs, au sommet du Puy-de-Dôme, quand il lutte avec Poulidor à son arrivée, il est complètement détruit, épuisé, il s'affale sur la banquette de la voiture de son éditeur sportif et il lui dit combien, c'est-à-dire combien de différence entre Poulidor et moi. Et Gimignani lui dit, t'as 16 secondes d'avance encore. Et il dit que c'est 15 de trop, comme ça il le dit dans la réflexion. Mais si on regarde bien la carrière d'Anquetil, il gagne les nations seul à 18 ans devant des coureurs comme Koblet sur 130 km contre la montre. Et puis en fin de carrière, il se remet en pile. D'abord, il bat le record de l'heure de Coppi quand il est tout jeune en 56. Et puis 11 ans plus tard, à 32 ans, il retente le record de l'heure. Et quand vous tentez le record de l'heure à cette époque-là, c'était une façon de remettre son prestige en jeu. Perdre, enfin, ne pas réussir le record de l'heure, c'était quasiment détruire toute une image, sa propre image. Donc il a pris des risques, il a fait ce fabuleux doublé Critérium du Dauphiné Bordeaux-Paris. Donc je sais pas de quoi on parle à propos d'Anquetil. Je pense que c'est Blondin qui s'est trompé.
Oh, je suis très content.
Voilà. Il y a une injustice, il y a une méprise, il y a un malentendu. En vérité, le comptable, c'était Poulidor.
Ah!
Parce que Poulidor a...
C'est extraordinaire.
Poulidor a fait toutes ses courses sans vouloir les gagner, se contentant d'être deuxième, sans être jamais dans un état second. Il a jamais été au bout de ses possibilités parce qu'il avait compris, et là on revient dans le cyclisme est un système, il avait compris que le public lui demandait pas de gagner des courses, le public lui demandait d'être lui-même. Et alors peut-être, c'est ça aussi le champion cycliste, c'est être soi-même, je sais pas, oui.
Alors, mais je n'oublie pas la question que vous avez posée à Romain Bardet, sa modestie fait qu'il n'y a pas encore répondu. Alors Romain Bardet, l'année qui vient sera-t-elle votre année? Vous avez mis entre parenthèses le Tour de France, vous allez courir le Giro, vous allez courir le Tour d'Espagne, la Vuelta. Et aussi, on vous attend énormément aux Jeux Olympiques, puisqu'ils se déroulent à Tokyo. Vous serez très vraisemblablement sélectionné. Vous m'avez dit avant l'émission que c'était un parcours de grimpeur. Est-ce que vous comptez beaucoup sur l'année qui vient, Romain Bardet?
Oui, j'attends beaucoup. Je suis notamment à un moment charnière de ma carrière où après cette expérience consécutive sur le Tour de France avec un calendrier, on en parlait précédemment, très stéréotypé, je vais pouvoir m'ouvrir cette année de nouveaux horizons avec des quêtes partagées au niveau national. Et j'ai toujours d'excellentes expériences, souvenirs sur le maillot tricolore. Et j'aurais d'ailleurs adoré courir un Tour de France par équipe nationale.
Ah, vous auriez aimé ça?
J'aurais vraiment aimé parce que, et en termes d'identification, on parle public, etc., on se sent investi de quelque chose d'un peu particulier. Alors, ça peut paraître assez primaire comme ça, c'est bien sûr, mais en portant mieux l'équipe de France, puisque nous, finalement, il n'y a qu'une fois par an, je ne sais pas, du monde, et bien heureux, toutes les Olympiades où on peut le faire, ces moments si singuliers, on l'appréhende vraiment de manière. Voilà, très particulière, et c'est pour moi un vrai honneur, et j'espère avoir l'occasion cette année de le porter à deux reprises, d'en porter haut les couleurs, oui.
Vous pensez, alors justement, il y a ces épreuves nationales, il y aura les Jeux Olympiques, et chaque année le championnat du monde, et est-ce que justement dans ces cas-là, vous arrivez à mettre de côté vos rivalités, voire les antipathies entre les uns et les autres au fur et à mesure des courses? Est-ce que vous arrivez tous à vous transcender vers un but commun? J'ai entendu dire que, justement, au championnat du monde où vous avez fini deuxième, les choses ne sont pas tout à fait bien passées entre les différents coureurs.
Elles ne se sont pas passées comme initialement prévu, puisque c'était Julien qui était le leader. Après, elles se sont très bien passées en interne, puisqu'on est dans la franchise, on est une génération, on a couru ensemble depuis nos jeunes années, avec Thibaut Pinot, oui. On court ensemble depuis 2008, on fait championnat du monde junior ensemble. Julien, je le connais très bien aussi, et on a ce poids aussi de se dire, voilà, on est une belle génération, et c'est notre, on doit maintenant aussi ramener des médailles, et surtout maintenant les médailles olympiques, bien sûr, et surtout peut-être le meilleur champion du monde, c'est quelque chose qui me manque cruellement, je pense que Philippe Pourriel ne me contredira pas au cyclisme français. Un maillot de champion, un maillot irisé, ça supplante tout ce qui peut se faire hormis le maillot jaune, mais c'est vrai que ça rayonne pour les suiveurs d'une saison cycliste. Le maillot de champion du monde, on ne voit que lui. Il y a une majestuosité de cette course qui fait que ça va être un événement très important pour le cyclisme français en 2020. Et je pense qu'on est en droit d'attendre des coureurs français. C'est pas nous mettre une pression inconsidérée de dire ça, de se battre pour ce titre-là.
Quel était d'ailleurs le dernier français à avoir été champion du monde, Philippe Brunel?
Oh, je crois Brochard, non?
97.
Oh, Brochard en 97, oui.
Et c'est un coureur qu'on a un peu oublié d'ailleurs.
Oui, oui, oui. Très mauvaise période.
Ah oui, c'était la mauvaise période.
Voilà, c'est ça, oui. On savait pas trop comment en parler. Oui, il y a ça aussi.
Donc, vous comptez, il y aura championnat du monde et Jeux Olympiques cette année. C'est deux rendez-vous. Et deux rendez-vous dont vous attendez énormément, parce que ce sont deux parcours qui sont plutôt favorables.
Exactement, aux grimpeurs, aux coureurs, notamment de profil, Julien Alaphilippe, Thibaut Pinot et au mien notamment. Donc oui, on peut espérer avec la France, dans l'idéal, sera en mesure de présenter l'une des équipes les plus fortes, toutes nations confondues, au départ de ces épreuves-là.
D'accord. Et alors, avec Guillaume Martin, Romain Bardet, vous êtes l'un des rares coureurs à avoir suivi des études longues. Vous n'avez jamais voulu abandonner vos études. Vos parents, d'ailleurs, semble-t-il, y tenaient beaucoup. Est-ce que, justement, cette réputation d'intellectuel, malgré tout, vous nuit dans le peloton? Est-ce que vous vous sentez différent des autres coureurs ou bien les choses se passent-elles tout à fait normalement avec Romain Bardet?
Non, je crois pas que ça ait pu me nuire. Ça a pu, à un moment donné, peut-être être un petit peu rébarbatif dans la manière dont j'ai été présenté en tant que coureur cycliste durant mes premières années professionnelles, puisque l'étiquette était toute trouvée. Et comme on aime bien, par facilité d'esprit et par mettre les gens dans des cases, une facilitation pour me présenter. Maintenant, ce sont des parcours, le double projet professionnel et sportif, des parcours de plus en plus communs et on peut que s'en réjouir. On encourage, je pense, à les jeunes à suivre les études qu'ils doivent suivre en parallèle de leur pratique sportive, et on se rend compte que non seulement ça ne dessert pas, mais surtout ça leur apporte un équilibre et une réflexion supplémentaire et qui leur permet d'être même meilleurs dans leur sport.
Mais de quoi parlent les coureurs entre eux, pendant les courses, après les courses, voilà, quels sont les sujets de conversation les plus fréquents?
Alors les sujets de conversation les plus fréquents, c'est vrai que c'est, bien sûr, ça reste autour du vélo, on vit quand même un petit peu en microcosme, mais je dirais, on a une pratique qui est quand même assez éreintante, c'est-à-dire qu'on ne se présente pas parfois à table avec je dirais pas l'intégralité de nos biens psychologiques, mais c'est vrai qu'on a une fatigue lancinante qui est récurrente et qui a tendance à annihiler un peu toute fantaisie d'esprit. Et c'est un vrai problème dans le sens où le cyclisme comme sport de très haut niveau a tendance un petit peu à vivre en vase clos, et donc on gagne à chaque fois à essayer de s'ouvrir un petit peu. Mais c'est difficile quand on passe 6 heures par jour sur un vélo, que derrière on doit faire aussi suivre des protocoles de récupération, de repas, etc., d'essayer de s'ouvrir davantage au monde. Mais pour moi, c'est le sacrifice le plus dur, de renoncer un petit peu à cette forme de vie sociale par cette pratique un peu ascète du cyclisme.
Oui, alors justement, pratique ascétique, mais vous dites dans un de vos entretiens, Romain Bardet, que l'un des sujets de prédilection des coureurs, c'est le poids des uns et des autres. C'est-à-dire que il y en a un qui, un coureur qui pourrait nous paraître maigre selon les critères traditionnels, donc vous vous dites entre vous qu'il est gros, je sais pas, il a un petit peu trop de masse, je sais pas quoi. Et il est vrai aussi que le format, si j'ose dire, du coureur cycliste est assez étrange. C'est-à-dire, vous avez un torse très faible, vous dites vous-même, et des jambes très musclées. Et vous ne pouvez pas déroger à cette obligation, et vous vous regardez les uns des autres pour savoir s'il y en a un, justement, qui y déroge. Romain Bardet.
Oui, complètement. C'est finalement une micro-société très policée et très normée, dans le sens où c'est vrai que il y a les profils un petit peu, je dirais pas exubérants, mais un petit peu marginalisés, vaut mieux être dans la norme dans le vélo. Et c'est vrai qu'on sent que c'est, il y a une certaine forme aussi d'esthétisme dans le chez le coureur cycliste. On se plaît à voir des coureurs racés. On a tendance à identifier les coureurs cyclistes à des vrais purs sang avec les muscles le saillant. Et c'est clair qu'on traque, je dirais pas chaque gramme de graisse, mais presque, pour être le plus avoir le corps le plus, on instrumentalise au maximum le corps pour la pratique et pour pédaler le plus vite possible aussi. Oui. C'est aussi primaire que ça.
Et c'est ce qui tranche aussi quand même avec le cyclisme d'avant, Philippe Brunel, parce que Anquetil, Poulidor, Merckx et même Armstrong n'étaient pas aussi maigres que les coureurs d'aujourd'hui.
Oui, oui, ça a changé. Oui, oui, ils sont devenus maintenant, on a affaire à des coureurs anorexiques, quasiment. Oui. Il y a une anorexie qui d'ailleurs leur confère une certaine beauté. Je pense qu'un coureur, est toujours à la recherche d'une espèce d'impondérabilité, c'est-à-dire de ne plus sentir son corps. Ils vont vers ça. Il y a c'est une sorte d'ascétisme quasiment religieux qui peut les rendre un peu fous, qui peut les emmener dans une folie, dans des excès. D'ailleurs, parce qu'après ils perdent leur puissance sur la route. Mais il y a des exemples qui sont là. On a connu le premier grand gabarit. Bon, il y a eu Koblet auparavant, il y a eu Merckx qui était déjà Indurain, qui était un grand gabarit. Mais autrefois, oui, le champion, c'était un athlète avec un corps en forme de tonneau et puis des jambes assez longues de héron, un peu comme Coppi étant le prototype parfait du coureur cycliste. Aujourd'hui, il y a ces exemples qui donnent l'idée qu'on peut pas gagner le Tour sans être extrêmement léger, quasiment très maigre. Les exemples, c'est Wiggins qui a perdu 10 kilos, Froome qui est quasiment, on voit pas la différence entre son cadre et sa personne, c'est devenu un Giacometti à vélo, et donc peut-être que tout ça inspire des réflexions, des recherches, et fabrique, je sais pas, cette génération de coureurs anorexiques que je comprends pas, parce qu'en même temps l'anorexie, parce qu'elle est réelle, s'accompagne aussi de dépression. Ils sont moins heureux qu'autrefois de faire du vélo, moins heureux d'être au milieu des gens, perturbés par la foule, perturbés par tout ce qui va venir les détourner d'eux-mêmes. Enfin, c'est le sentiment que j'ai.
Brunel, je pense que c'est un petit peu excessif de parler d'anorexie généralisée. Il y a je pense, un contrôle de ça, un contrôle du poids, parce qu'à un moment donné, on rationalise le vélo, c'est-à-dire que quand on fait un sport propre, où chacun mesure continuellement notre puissance maximale qu'on peut développer, on est sur une équation à deux facteurs. Si on peut augmenter la puissance, pour aller plus vite, il faut diminuer le poids. Et faut trouver la juste balance là-dessus. Mais de là à parler d'anorexie généralisée, je pense que c'est un petit peu excessif.
Non, mais j'ai pas dit généralisée.
Maintenant, c'est vrai qu'il y a un vrai problème, mais le poids est un facteur parmi d'autres. La surcharge des calendriers, l'éloignement permanent par rapport aux racines. Oui, le fait d'être déraciné un petit peu, de se retrouver parachuté à des courses à l'autre bout du continent sans raison apparente, sans culture cycliste. Sous déracinement, tout fait un petit peu perte de sens, perte de repère. Et c'est vrai qu'on sent des carrières qui deviennent parfois de plus en plus brèves, puisqu'il y a cette perte un petit peu de plaisir.
Et vous évitez ça vous-même, Romain Bardet. Vous réussissez à éviter ça.
On essaie de garder tous les garde-fous pour éviter ça.
Mais chez vous, l'ascétisme ne va pas jusqu'à la recherche de l'impondérable. Parce que vous n'êtes pas un gros gabarit, c'est clair.
Je suis pas un gros gabarit, je ne prends pas beaucoup de poids l'hiver. Et puis bon, la vraie clé aussi, c'est d'être suffisamment, d'avoir assez d'énergie pour les demandes de l'effort. Donc... C'est cette juste balance à trouver, tout en conservant une part pour moi qui est absolument fondamentale, et une part de mon côté hédoniste, c'est d'apprécier aussi les bonnes choses, la gastronomie, et surtout moi aussi l'œnologie, ces petits plaisirs de vie qui font...
Vous n'y renoncez pas.
Je n'y renonce pas, je l'adapte en fonction des saisons et surtout des environnements, parce que quand on est parfois dans des lieux, on a plus ou moins envie de goûter un bon vin que dans d'autres, mais c'est absolument nécessaire à la bonne santé psychologique et l'envie surtout de se donner à 100% sur le vélo.
Et est-ce que pendant les courses à étapes, vous avez le temps de lire Romain Bardet? Ou est-ce que, comme beaucoup de champions, et pas seulement cyclistes, vous vous délassez avec les jeux vidéo, les choses comme ça?
Non, pas du tout. Moi, je ne suis pas du tout jeux vidéo, mais le plus grand sacrifice, c'est que je dois faire... j'ai l'impression que j'ai aucune disponibilité mentale. C'est-à-dire que la fatigue prend un tel poids et une telle place sur mon état en général que je vais ouvrir un livre, je vais commencer à le lire et la page précédente, je ne trouverai plus le fil parce que je ne suis pas dans un... la fatigue sera telle, presque un état parfois de léthargie et c'est très dur à accepter que ça supporte assez mal presque l'effort psychologique qu'il y a à faire pour être avancé dans un raisonnement psychologique.
Vous avez des jours sans, vous en avez eu d'ailleurs dans le dernier Tour de France. Est-ce que dans ces cas-là, la tristesse vous empêche de dormir? Est-ce que vous avez des insomnies aussi pendant les courses si vous êtes mécontent de vous dans tel ou tel moment, dans telle ou telle étape, Romain Bardet?
Oui, c'est très régulier et... les podcasts me sont salutaires pour ça, mais je pense qu'à la fois il y a du bon à ce. Ce serait pas normal de passer une bonne nuit à la fois la veille d'une course importante. C'est plutôt bon signe quand je dors pas bien. Et après une déception, le jour où je dormirai très bien après une déception, c'est que j'aurai fait mon temps dans le vélo et que si ça n'allume plus cette flamme là, cette flamme du compétiteur, l'envie de me rattraper, de revanche, ce désir là qui doit germer au plus profond de moi, c'est une sorte d'énervement contre soi-même, qu'on n'a pas montré notre vrai visage et qu'on vaut mieux que ça aussi et qu'on a envie de le montrer sur la route. Donc on a une sorte de forme d'impatience qui peut se traduire parfois par une insomnie, et c'est vrai qu'on fait pas un métier où émotionnellement on va être dans un état psychologique stable. Ça, c'est, faut s'y attendre.
Bon, c'est très bien. Ça veut dire que les coureurs cyclistes ne sont pas entièrement formatés. Il y a de la vie.
Il y a de la vie.
Bon, très bien. C'est une belle conclusion pour cette conversation. Merci à tous les deux. Philippe Brunel, je rappelle le titre de votre dernier livre, Rouler plus vite que la mort. Il est publié aux éditions Grasset. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard, François Connac et Alexandra Malka. À la technique aujourd'hui, Benjamin Vignal. Je vous souhaite, Romain Bardet, une très belle année 2020, en tout cas que je suivrai avec attention et le cœur battant.
Merci.
Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.